Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Aujourd'hui, dans sa version grand invité de l'économie, RFI Jeune Afrique, avec Julien Clémenceau. Bonjour Julien.
Bonjour Jean-Pierre.
Nous recevons Julien Le Fileur, un autre Julien. Bonjour Monsieur Le Fileur.
Bonjour Monsieur Boris. Bonjour,
Julien Le Fileur, vous êtes le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Enexus, qui fait du conseil en financement pour le secteur privé en Afrique. Auparavant, vous avez passé 15 ans au sein de l'AFD, l'Agence française de développement. Et à ce titre, vous avez sillonné le continent africain, beaucoup travaillé et écrit sur lui. Nous allons donc parler du développement du secteur financier en Afrique, de sa contribution à l'émergence du continent. Nous parlerons aussi de la situation économique qui prévaut en particulier en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel. Pour vous aider, Julien Le Fileur, à le faire, nous entendrons une brève interview de Mamadou Koulibaly, le patron des patrons maliens, des propos du président Alassane Ouattara sur l'antenne de RFI cette semaine et ceux de Hafez Ghanem, le vice-président de la Banque mondiale en charge des relations entre cette institution et l'Afrique. Mais a priori, Julien Le Fileur, ce n'est pas vous faire insulte que de vous le dire, les auditeurs ne vous connaissent pas encore très bien et nous commencerons donc cette émission en faisant connaissance grâce à quelques questions pernicieuses bien sûr de Julien Clémenceau. Julien Clémenceau, c'est à vous.
Bonjour Julien Le Fileur. Après une classe préparatoire au sein du lycée Stanislas, un lycée pour jeunes gens de bonne famille, vous intégrez l'école centrale, l'une des toutes meilleures écoles d'ingénieurs françaises, et vous décidez d'opter pour une spécialisation en finance. Pourquoi cette voie ?
Alors pourquoi une spécialisation en finance dans l'école d'ingénieurs ? C'est parce qu'on n'aime a priori pas trop le métier d'ingénieur et qu'on a envie de se réorienter vers des métiers plus financiers ou un petit peu plus généralistes. Donc c'était un peu mon idée, je pense, à l'école centrale, de m'orienter vers des disciplines un peu plus larges que celle d'ingénieur.
Donc, intégrer l'école centrale, c'était une erreur d'orientation?
Non, il y a beaucoup de financiers qui sortent de l'école centrale et également d'économistes, puisqu'à l'origine, je considérais même l'idée d'être économiste en sortant de centrale. Donc, probablement pas une erreur d'orientation.
Mais un pays comme la France manque d'ingénieurs. Est-ce que c'est pas une perversion que de se destiner à la finance, à la spéculation, au lieu de construire des ponts, des routes, en Afrique même, par exemple?
Alors peut-être que la France manque aussi de bons financiers. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a envie de s'orienter vers la finance. Non, je sais pas, c'est une bonne question. Après, je pense que de manière très personnelle, effectivement, construire des ponts ou des centrales énergétiques me branchait moins. Néanmoins, dans notre travail de financier, il faut quand même avoir une bonne compréhension de ce que vous financez derrière. Et c'est pour ça que vous retrouvez quand même beaucoup d'ingénieurs dans la finance. On a financé de l'agro-industrie, par exemple. Vous êtes obligé de comprendre les logiques agro-industrielles derrière. Donc il y a beaucoup d'ingénieurs agro-industriels dans le métier de la finance pour ce type de secteur, par exemple.
Après un début de carrière finalement assez classique dans de grandes banques, vous changez d'univers et vous intégrez l'Agence française de développement. Est-ce que la finance telle que pratiquée dans les économies développées, ça vous intéressait moins, ça vous intéressait pas ?
Vous avez noté que le début de carrière était très court. J'ai effectivement passé pratiquement une année au Crédit Lyonnais sur les économies en réalité d'Europe de l'Est et centrale, à l'époque où elles étaient en transition vers l'économie de marché, vers l'Union européenne. Et ensuite,
vous aviez un intérêt particulier pour l'Europe de l'Est ? Vous aviez déjà, je crois, fait un stage au sein d'une ambassade ?
C'est bien ça. J'ai effectivement commencé ma carrière en Hongrie. Et c'était une période qui était assez passionnante, puisque c'était l'accession de tous ces pays à l'Union européenne. Et effectivement, il y avait des problématiques de développement et de transition vers l'économie de marché. Après, ce qui m'en a peut-être un peu éloigné, c'est que finalement, c'est allé très vite. Et l'économie de marché a été adoptée très vite. Et moi qui avais davantage envie de faire du développement et d'avoir peut-être un travail un peu plus utile, j'ai pas senti que ça allait être très challenging ou qu'il y avait réellement des problématiques de développement en Europe de l'Est.
Et vous aviez un lien avec le continent africain ? Comment vous êtes venu à travailler sur l'Afrique ?
Peut-être plus que l'Afrique, c'était l'envie de faire un travail utile et d'apporter quelque chose. Et donc naturellement, je me suis orienté vers l'aide de développement. C'est peut-être un mot générique un peu passé de mode et puis qui correspond réellement pas à ce qu'on fait. Mais j'avais envie de travailler dans des économies où, plutôt moins développées, où il y avait une réelle valeur ajoutée à apporter. Donc c'était peut-être plus l'envie d'être utile et d'avoir un travail et d'avoir un apport utile qui m'a amené vers l'Afrique. Et ensuite, je suis rentré à l'AFD. Et quand vous rentrez à l'AFD, surtout dans au début des années 2000, je crois que les zones d'intervention, c'était 80% Afrique. Donc naturellement, je me suis focalisé sur l'Afrique. J'ai commencé à travailler sur des projets en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, et puis la machine était lancée.
Et alors, quand on est un financier français, on gagne aussi bien sa vie quand on travaille sur l'Afrique que quand on travaille sur l'Europe ?
Bon, naturellement, non. Enfin, en tous les cas, dans ma carrière, non, effectivement, ce n'était pas le cas.
Merci, Julien Clemenceau. Julien Le Fileur, en 2010, à la veille de la crise post-électorale ivoirienne, vous vous êtes installé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous avez ouvert un bureau pour Proparco, qui est la filiale de l'AFD qui investit dans le secteur privé. L'AFD en tant que telle étant plutôt dédiée à l'aide publique. Près d'une décennie plus tard, est-ce que vous avez gardé un lien avec la Côte d'Ivoire ? Est-ce que c'est un pays où, puisque vous y avez fait quelques-uns de vos premiers pas dans la finance privée, vous avez des attaches particulières ?
Bah, tout d'abord, affectif, puisque c'est un pays à la fois très agréable, attachant, et puis c'est un peu la locomotive d'Afrique de l'Ouest. Donc quand vous travaillez en Afrique de l'Ouest, naturellement, on reste attaché et connecté à la Côte d'Ivoire. Ensuite, dans la société que j'ai effectivement créée en début d'année dernière, que vous avez mentionné dans votre présentation, Enexus Finance, oui. Nous avons notre siège à Paris et notre première filiale a en effet été ouverte à Abidjan, en Côte d'Ivoire, assez récemment d'ailleurs, puisqu'on l'a ouverte début septembre, en vue de chapeauter l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Donc,
est-ce que vous sentez les vents porteurs dans l'économie ivoirienne en ce moment ?
Bah, comme toute veille d'élection, malheureusement, il y a toujours un petit... Ça, c'est quels que soient les pays, en tous les cas en Afrique que j'ai observé. Toute veille d'élection ou toute année préélectorale, c'est quand même pas une grande année d'investissement et de dynamisme économique. Néanmoins, il est évident que, je ne connais pas les chiffres exacts, mais 60 ou 70% de l'économie de la zone UMOA, qui est l'Afrique francophone de l'Ouest, est en Côte d'Ivoire. 70% du PIB est en Côte d'Ivoire. Donc évidemment, les grosses entreprises sont ici. Après, actuellement, l'année 2020, c'est effectivement pas l'année où toutes les entreprises vont investir en Côte d'Ivoire.
Est-ce à dire que cette élection 2020, où on risque de retrouver quelques vieux crocodiles de la politique ivoirienne, vous inquiète ?
Bonne question. Inquiétant, finalement, quand vous regardez l'histoire, même la crise la plus difficile de 2010 a duré 6 mois, a été vraiment difficile et malheureusement d'un point de vue humain aussi coûteuse.
3000 morts.
Exactement. Après, il y a une certaine résilience d'un point de vue économique en tous les cas. 6 mois après, nous-mêmes, nous nous sommes réinstallés en Côte d'Ivoire 6 mois après, puisque vous avez mentionné qu'on était à Proparco à cette époque. Nous avons réinstallé le bureau et l'économie est repartie très rapidement 6 mois après. On avait observé exactement la même chose au Mali, même si la situation, malheureusement, s'est à nouveau un peu enlisée. Mais au début de la crise malienne, finalement, 6 mois après, l'économie repartait. Donc, bon, moi, j'ai l'impression qu'il y a une certaine résilience. Après, pour ne pas éluder complètement la question d'inquiétude vis-à-vis des élections ivoiriennes, je sais pas.
Est-ce que vous sentez que ce pays est apaisé et a pu faire la réconciliation qu'on attendait entre les différentes parties ?
Pour être honnête, j'aurais du mal à répondre à cette question. Je pense qu'il faut vivre sur place pour avoir un point de vue pertinent sur le sujet. Et moi, ça fait plusieurs années que je suis plus sur place. Donc c'est difficile à dire. En plus, tous les échos qu'on entend sont tous contradictoires. Des gens très bien renseignés, etc., sont très calmes et n'ont aucune inquiétude. Alors que d'autres, tout aussi bien renseignés, sont très inquiets. Donc, personnellement, j'ai vraiment du mal à me faire une opinion. Et je pense qu'il n'y a quand même pas les éléments qu'il y avait en 2010, mais c'est presque de l'ordre de l'intuition, cette...
Alors, tous les pays développés ont créé des structures pour investir dans le secteur privé. Donc, en France, on l'a dit, c'est Proparco qui a ce rôle au sein de l'AFD, mais ça existe aussi au Royaume-Uni avec la CDC, en Belgique. Est-ce que c'est une bonne chose que ces structures existent ?
Ah oui, je pense. En tous les cas, moi, j'ai passé 15 ans et puis finalement, le travail que je fais maintenant est un peu dans la continuité de ça. Oui, je pense que c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, quand vous voyez la progression en termes de volume de ce que font ces entités, donc effectivement, vous l'avez mentionné, Proparco pour la France, la DEG pour l'Allemagne, le FMO pour les Pays-Bas, la SFI, même pour la Banque mondiale, toutes ces structures ont multiplié leurs engagements, je n'ai pas les chiffres exacts, mais par 6 ou 7 depuis une dizaine d'années. Donc, c'est nécessairement qu'il y a un besoin.
Est-ce que ces financements ne pourraient pas être apportés par le privé plutôt que par des fonds publics ? Par le passé, on a reproché à ces structures aussi de faire de l'argent sur des entreprises qui auraient pu intéresser des investisseurs privés, alors qu'on a aussi besoin d'argent pour développer des entreprises qui sont moins finançables, qui ont plus de difficultés à aller voir les banques ou des investisseurs privés, notamment.
C'est vrai, mais je pense que c'est le rôle premier de ces institutions de développement. Hein. Quand on travaille dans une institution, ce qu'on appelle une DFI, Development Finance Institution, quand on travaille dans une DFI pour le secteur privé, l'idée, c'est de financer des projets qui sont mûrs ou presque mûrs pour le secteur financier privé, mais pas complètement. Donc, on a un fameux principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on se doit d'être subsidiaire, c'est-à-dire de financer ce qui ne peut pas être complètement financé par le secteur privé, mais presque. Et d'ailleurs, la plupart de ces DFI ont maintenant des objectifs de mobilisation de fonds. C'est-à-dire que vous devez investir 10 et vous devez également apporter 20 de financement du secteur privé.
Un effet de levier sur le privé.
Exactement.
Est-ce que le secteur privé s'intéresse assez à l'Afrique ? Est-ce que les fonds d'investissement, toutes les private equity, toutes ces structures qui gravitent dans le monde de la finance à Londres, à New York, à Paris, sont assez présentes en Afrique et ont assez pris conscience de l'intérêt du secteur ? Il y a quelques jours, Jack Dorsey, le patron de Twitter, a dit qu'il allait s'installer en Afrique. Est-ce que c'est un bon signe ? Est-ce que c'est une hirondelle qui annonce le printemps ?
Alors oui, pour répondre à la question de est-ce qu'il y a suffisamment de financement qui s'intéresse, enfin suffisamment d'acteurs financiers qui s'intéressent à l'Afrique et au secteur privé en Afrique, indéniablement la réponse est oui. Je pense qu'il y a beaucoup de fonds, les rentabilités que l'on voit sur les pays développés sont pas très grandes, notamment en Europe. De fait, il y a quand même beaucoup de capital qui est intéressé à avoir des meilleures rentabilités avec un risque modéré en Afrique. Donc oui, il y a suffisamment de fonds. Après, ce qui est relativement, je trouve, marquant, c'est que vous avez beaucoup de fonds qui s'intéressent tous à la même chose. Mon sentiment personnel, c'est qu'il y a un effet de mode assez important. Effectivement, vous citiez Twitter. En ce moment, en Afrique, the big thing, c'est vraiment les nouvelles technologies, les fintech, etc. Bon, voilà, quand vous avez une entreprise dans ce secteur, vous n'avez pas trop de difficultés. Évidemment, tout est relatif, mais vous n'avez pas trop de difficultés à vous faire financer. Par contre, quand vous êtes sur des secteurs un peu plus traditionnels, type les matériaux de construction, voire maintenant même l'agribusiness, ça devient peut-être un petit peu plus difficile. Donc, pour répondre à la question, oui, je pense qu'il y a beaucoup de fonds financiers qui s'intéressent à l'Afrique. En revanche, peut-être un peu trop sur les mêmes thématiques. Alors que certaines thématiques porteuses, certains secteurs porteurs, sont délaissés malheureusement.
Alors, dans les nouvelles technologies, il y a une plateforme qui a beaucoup fait parler d'elle ces dernières années, c'est Jumia, et qui connaît certains problèmes.
Surtout maintenant qu'elle fait parler d'elle,
oui, c'est surtout non qui connaît des problèmes, qui se retire de certains des pays où elle était implantée. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous suggère comme réflexion ?
Peut-être dans la continuité de ce que je viens de dire, malheureusement un peu un effet de mode et de peut-être communication. Alors, moi, je n'ai ni eu l'occasion de financer Jumia, ni de regarder le business model. Donc, je pourrais en parler de manière un peu générale seulement. Mais effectivement, enfin, il est indéniable qu'il y a eu un effet. Ils ont relevé beaucoup, beaucoup d'argent au total. Je me demande si ce n'est pas de l'ordre du milliard d'euros.
Tout à fait.
Par la raison, pourquoi tant d'investisseurs se sont précipités sur Jumia? Je pense qu'il y avait un effet histoire assez attirante. Nouvelles technologies, etc. Enfin bon, en gros, ça a plus des gens qui savent communiquer, il faut le dire.
Donc les financiers sont des moutons ?
Non, oui. Non. Sur les secteurs, en ce qui concerne l'Afrique, quand vous ne connaissez pas, oui, il peut y avoir un certain effet mouton. Enfin, je pense que c'est assez naturel de toutes les manières, mais effectivement, une fois que... alors Jumia, il y a du beau monde au capital de Jumia, mais enfin, je crois que vous avez AXA, vous avez...
AXA, Orange, voilà, il y avait la CDC, l'opérateur sud-africain MTN.
Oui, alors une fois que ces gens ont financé, évidemment, ça rassure les suivants, et les suivants, c'est généralement des gens qui connaissent un petit peu moins l'Afrique, qui en sont un petit peu plus loin, et voilà, effectivement, enfin, pour prononcer le mot justement, je pense qu'il y a potentiellement un effet de bulle sur des secteurs technologiques en Afrique.
Ce qui manque beaucoup pour favoriser le développement des économies africaines, c'est souvent la formation des citoyens et des citoyennes de ce continent, en particulier la formation des femmes. C'est en tout cas le point de vue du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Hafez Ghanem, que Charlotte Idrak a rencontré à Dakar il y a quelques jours. Quand elle lui parle croissance économique et inégalité sociale, lui, il répond formation des femmes, on l'écoute.
L'inégalité commence à l'école. Même ça commence avant l'école, parce que nous avons un tiers des enfants africains qui souffrent de manque de croissance, de retard de croissance. Pour régler tous ces problèmes, on a besoin de l'autonomisation des femmes africaines. Je m'explique. Quand nous avons 20% ou plus des filles africaines qui ont des enfants avant l'âge de 18 ans, ces filles ne vont pas à l'école et elles commencent à avoir beaucoup d'enfants. Les enfants sont mal nourris, ne sont pas éduqués. Donc, il est tellement important, à mon avis, de régler ce problème, arrêter le mariage précoce, assurer que toutes les filles finissent leur scolarité, que les femmes ont des options dans la vie, des possibilités de travail. C'est nécessaire pour le développement du capital humain. Et c'est nécessaire, c'est pas seulement pour créer l'égalité homme-femme, mais c'est pour créer l'égalité entre les différentes classes économiques et les différentes régions des pays. Quand on a un taux de fécondité dans une région de 6 enfants par femme, en moyenne, et dans d'autres régions, c'est 2,5, on voit comment certaines régions sont beaucoup plus riches, avec le taux de fécondité plus faible, et les autres tellement plus pauvres.
C'était donc le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Hafez Ghanem, au micro de Charlotte Idrak. Julien Le Fileur, je voyais que vous preniez des notes. C'est une préoccupation qui vous habite, que vous rencontrez dans votre fréquentation de l'Afrique, cette formation des femmes en particulier?
Non, en fait, en écoutant, j'étais effectivement en train de réfléchir si on trouvait moins de femmes proportionnellement à des postes de direction en Afrique. Alors évidemment, c'est généralement les chiffres qui parlent sur ces sujets-là. Moi, l'impression que j'ai eue, encore une fois, dans les pays que j'ai couverts en Afrique francophone de l'Ouest, ça n'avait pas l'air d'être vraiment le cas. J'ai trouvé assez régulièrement des femmes à des niveaux de direction, à des postes de direction. Alors peut-être plus, en effet, et peut-être lié à l'intervention ici, peut-être plus en réalité en Côte d'Ivoire ou au Sénégal qu'au Mali ou au Burkina, qui sont probablement plus traditionnels. En tout cas, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire et les pays côtiers, j'ai eu souvent l'impression que des femmes à des postes de direction assez élevés.
Julien Le Fileur est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Et une question de Julien Clémenceau sur l'économie africaine.
Globalement, est-ce que vous pensez que l'économie africaine est sur la bonne voie? Est-ce qu'elle est sur la bonne trajectoire? Est-ce que le gap avec les économies, donc l'espace qui la sépare encore des économies plus développées, est en train de se réduire?
Oui, alors je pense qu'effectivement, ça peut quand même un petit peu dépendre des régions et des pays, donc c'est très, très micro, mais pour répondre un peu généralement, alors je vais peut-être répondre un petit peu à côté de la question, on y reviendra après, mais moi ce que je trouve un peu marquant, c'est que vous avez des normes pour les entreprises ou des standards pour les entreprises qui commencent presque à diverger de plus en plus en Afrique et en Europe. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'entreprises européennes qui ont des difficultés à investir en Afrique. Je vais citer un exemple ensuite, parce que les standards en question ne correspondent pas aux standards européens. Le secteur bancaire est un exemple évident. Il y a beaucoup moins de...
Qu'est-ce que vous appelez diverger?
Diverger, prenons l'exemple du secteur bancaire, les normes de conformité, donc c'est la connaissance de vos clients pour éviter de financer des opérations illicites, ou les normes de suivi des fonds, etc., qui sont imposées aux banques européennes, sont difficilement praticables en Afrique. De fait, pour qu'une banque européenne continue de se développer en Afrique, il faut qu'elle réussisse à opérer avec ces standards, ce qui est difficile quand vos concurrents locaux ne le font pas. Mais si on a l'exemple, on a vu quand même beaucoup de banques
françaises, notamment.
On pense à BNP, mais Barclays, il y a quelques années, est sorti d'Afrique. Je pense que dans le fond de leur tête, il y avait quand même l'idée de « on n'opère pas aux mêmes normes ». Donc, simplement pour revenir à la question que vous posiez, les standards peuvent quand même diverger dans certains secteurs et ça rend de plus en plus difficile la connexion et c'est un peu dommage parce qu'in fine, ce sont plus les entreprises indiennes ou marocaines ou...
Ou chinoises.
Mais alors...
Oui, alors chinoises, on entend beaucoup parler des Chinois quand on travaille dans le secteur privé, hors infrastructure. Honnêtement, on les rencontre jamais. Hein. Moi, j'ai jamais rencontré en 15 ans d'Afrique, j'ai jamais eu un rendez-vous avec un Chinois pour un projet de financement. Et j'ai pas beaucoup travaillé dans les infrastructures, donc mettons ce secteur à part. Mais moi, je pense beaucoup plus aux Indiens, à l'Afrique du Nord, évidemment, au Moyen-Orient, qui
vous parliez du secteur bancaire. Et vous êtes effectivement un des premiers à avoir observé le retrait des banques françaises au début des années 2010. Mais est-ce que l'Afrique n'y a pas gagné? Alors, effectivement, beaucoup de banques marocaines se sont développées en Afrique subsaharienne, mais il y a aussi, on voit apparaître des entrepreneurs africains qui montent des banques et avec une visée souvent régionale. Une banque comme Ecobank a pu largement se développer. L'assureur NSIA a développé aussi un pôle bancaire. C'est une partie d'économie que les Africains ont récupérée et développent maintenant pour leurs propres besoins. C'est plutôt positif.
Oui et non. Oui, dans le sens où, bien évidemment, c'est plus intéressant d'avoir des gros groupes régionaux ou des gros groupes locaux, pas uniquement pour un aspect éthique, etc., mais simplement parce qu'un gros groupe local qui se développe localement ne va pas partir. Même si c'est la crise en Côte d'Ivoire, au Togo, au Nigeria et au Zimbabwe en même temps, Ecobank restera en Afrique quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est très positif parce qu'il y a une certaine pérennité, une certaine continuité dans l'investissement et dans les stratégies, etc. Donc ça, c'est effectivement très positif. Après, indéniablement, on est dans des économies connectées. C'est quand même dommage que des groupes européens ne puissent plus transférer le savoir-faire qui gagne sur les marchés développés en Afrique, premièrement. Deuxièmement, plus vous vous éloignez d'Afrique, c'est-à-dire si BNP demain, et ce qui sera probablement le cas, n'a plus de réseau en Afrique, pour faciliter le financement du commerce entre l'Afrique et l'Europe, ça va être plus difficile. Tout simplement parce que les banques européennes auront moins de correspondants qu'ils connaissent en Afrique. Donc, moi je pense que d'une certaine manière, c'est un peu dommage. Je pense que les deux peuvent coexister. Actuellement, on est en train de voir le retrait de BNP. On ne connaît pas encore qui sont les acheteurs, mais j'ai pas entendu de nom en tous les cas. Notamment via Jeune Afrique, j'ai pas entendu de noms émerger qui soient des acteurs internationaux ou qui puissent apporter des normes internationales.
Est-ce que c'est le moment pour les banques africaines d'obtenir des licences en Europe qui leur permettent justement de faire ce lien et ce pont avec les marchés africains?
Si, en effet, vous avez raison. Je pense que BWA l'a fait, ça a fonctionné. Le groupe BMCE le fait. BMCE sont les Marocains. Et comment que je sais pas s'ils ont une filiale à Paris? Non, mais effectivement, vous avez raison. Après, les exigences de capital minimum, etc. Enfin, pour qu'une banque soit rentable, en France, il faut quand même mettre beaucoup d'argent. Vous avez des exigences de capital minimum. Vous avez effectivement des investissements à faire dans les infrastructures et tout. Vous avez le coût des licences. Enfin, vous avez tout un tas de coûts fixes, plus de coûts d'opération qui font que vous pouvez pas le faire simplement pour faire du transfert de migrants ou des choses comme ça. Ça va pas être rentable. Donc, vous
pouvez le faire. Le transfert de migrants, vous voulez dire des remittances, transferts de fonds.
Exactement. Western Union ou. Donc, si, mais il faut quand même avoir une certaine assiette financière très solide pour être en mesure de rentabiliser ces banques. Et donc, comme je disais, BOA l'a fait. BOA France existe encore, bien que je n'en sois pas complètement sûr. BMCE est à Londres. Mais bon, honnêtement, il n'y a pas beaucoup
d'exemples. Le BMCE et BOA sont dans le... C'est BMCE, Bank of Africa, c'est la même entité, le même groupe. Oui.
Alors, vous nous disiez tout à l'heure, Julien Le Fileur, que ce qui était bon dans cette implantation de banques régionales africaines en Afrique, c'est qu'elles ne partaient pas quand il y avait crise. Mm-hmm. Et vous citiez toute une série de pays. Les pays du Sahel, ils sont confrontés à une crise politique majeure avec le développement des violences terroristes. Les armées locales sont mobilisées, comme l'armée française avec l'opération Barkhane, dont on parle beaucoup sur les antennes de RFI et dans les colonnes de Jeune Afrique. Mais les États sahéliens ont le plus grand mal à faire face à cette situation. Selon le président du patronat malien, Mamadou Koulibaly, le secteur privé a pourtant un rôle à jouer dans la lutte contre le terrorisme. Écoutez ce qu'il a confié à notre collègue du service économique et chroniqueuse économique sur RFI, Dominique Bayard.
Le rôle du secteur privé est très important dans la lutte contre la corruption et la lutte contre la sécurité. C'est le secteur privé qui est pourvoyeur de fonds. C'est le secteur privé qui paye les impôts pour que les armées puissent exercer librement leurs services, parce que c'est nous qui payons. De deux, un secteur privé fort est obligatoirement le maillon le plus fort de la lutte contre l'insécurité, contre le djihadisme. Si le secteur privé est faible, le djihadisme va prospérer dans le pays. Ce n'est pas avec des paroles, ce n'est pas avec des discours qu'on va amener la sécurité dans le pays. C'est avec les entreprises et les armes que la sécurité reviendra dans notre pays.
Est-ce que les entreprises aujourd'hui sont dans un environnement qui leur permet de participer à cette lutte contre le terrorisme?
Bien sûr, on n'a pas envie de fermer boutique. Tout ce qu'on peut faire pour lutter contre cette lutte contre l'insécurité, contre le djihadisme, on le fera. Économiquement, si demain, nous, secteur privé, on arrive à être beaucoup plus demandé par le secteur public, on jouera notre partition. Parce que nous sommes aujourd'hui en compétition avec les chefs d'entreprise djihadistes. Ils recrutent les mêmes personnes, nous recrutons les mêmes personnes. Ils proposent 50 000 francs par combattant. Le salaire minimum au Mali, c'est 50 000. Nous sommes en compétition. Pour que cette compétition sèche, il faudrait un revenu minimum supérieur à plus de 60 000. Et personne n'ira faire du djihadisme.
C'était donc Mamadou Koulibaly au micro de Dominique Bayard, le patron des patrons maliens. Julien Le Fileur, c'est assez frappant ce qu'il dit. Une compétition pour le recrutement de la main-d'œuvre, en quelque sorte, entre le secteur privé maliens et les groupes djihadistes qui rémunèrent au même tarif.
Oui, ben, effectivement, c'est intéressant d'avoir ce point de vue et cette comparaison qui paraît effectivement assez naturelle. Enfin, la première chose qui vient à l'esprit, c'est qu'évidemment, quand vous avez de l'emploi, moi je me souviens au Ghana, les gens étaient très confiants sur les risques de troubles politiques, sur l'absence de risques
quand
de troubles politiques.
Quand vous dites c'était à quelle époque
2011-12, mais bon, d'ailleurs, finalement, ça va toujours à peu près. Tout simplement parce que les gens disaient, ici, les gens ont d'emploi, les gens vont pas casser ce qu'ils ont, et dès que les gens commencent à manifester ou quoi que ce soit, les voisins, le soir, leur disent, c'est bon, enfin, tu vas pas nous mettre en péril ce qu'on a gagné, ce qu'on a construit. Effectivement, au Mali, et probablement dans le nord du Mali, quand vous avez aucune entreprise, aucun emploi, etc., il y a beaucoup moins de freins, finalement, pour partir vers un petit peu n'importe quoi. Non, mais c'est évident, et puis c'est intéressant de voir cette comparaison entre être recruté par une entreprise, par Mossadegh Bali, que vous avez invité il y a pas très longtemps pour le groupe Azalaï, ou être recruté pour le djihad, quoi.
Alors, vous êtes un observateur privilégié, donc on l'a dit, du secteur privé depuis une quinzaine d'années. Qu'est-ce qui a changé chez les chefs d'entreprise africains que vous rencontrez? Est-ce que vous voyez émerger une nouvelle génération avec de nouvelles attentes, peut-être de nouveaux comportements?
J'ajouterais à la question de Julien un complément. Est-ce que ce que dit Mamadou Koulibaly fait penser qu'il y a une nouvelle génération d'opérateurs privés qui sont beaucoup plus actifs et demandeurs d'une part de pouvoir économique croissante?
Oui. Je sais pas, moi ce que j'observe, oui, moi je trouve qu'il y a eu, alors pour commencer par répondre à la première question, oui, je trouve qu'il y a un changement naturel, hein, mais de physionomie ou de type de chef d'entreprise. En schématisant, et bien évidemment tous les schémas ont leurs limites, mais en schématisant les premiers chefs d'entreprise qu'on a vus en Afrique francophone dans le secteur privé, c'était au lendemain des indépendances, vous aviez des grands commerçants qui ont commencé à faire de l'import-export, etc. Et donc ça, c'était cette première génération, donc qui était pratiquement uniquement commerçant. La deuxième génération que vous avez eue jusque dans les années 2000-2010, C'était donc les enfants de cette première génération qui ont hérité d'un groupe de commerce, etc., et qui ont essayé de le structurer et surtout de commencer à investir à long terme. Donc, on investit dans des industries, donc industrie alimentaire assez souvent, ce qu'on appelle maintenant FMCG, pour les vendre
biens
localement.
Biens de consommation
pour vendre localement. Et la troisième génération, et qui est effectivement celle qu'on voit maintenant et qui a émergé peut-être ces 15 dernières années, donc c'est les enfants de la deuxième génération, sont des gens qui ont hérité d'un groupe avec plusieurs entreprises, généralement assez diversifiées, et qui se disent, voilà, en fait, on fonctionne pas réellement encore avec des normes internationales, on est spécialisé dans tout, c'est-à-dire dans rien. Finalement, quel est notre cœur de métier? Notre cœur de métier, c'est bon, l'agroalimentaire, on va dire. Maintenant, structurons ce groupe pour que ce soit un vrai groupe agroalimentaire, donc cherchons des fonds à l'international, recrutons des managers de qualité, faisons venir des entreprises internationales et développons-nous dans la région.
Donc, ça veut dire qu'on on assiste aussi à l'abandon de certains pans d'activité, c'est-à-dire que voilà, on a une usine de pâtes, on va regarder peut-être du côté d'un moulin, etc., mais on va arrêter peut-être de faire du transport ou de l'immobilier, ou tout coexiste toujours?
Oui, bah alors l'immobilier, effectivement, c'est un bon exemple parce que tout le monde investit également dans l'immobilier, mais généralement, il y a une optique un peu patrimoniale de continuer. Donc ça, l'immobilier demeure. Mais en effet, oui, je pense que l'image du groupe qui avait commencé à investir dans l'agroalimentaire, puis dans le transport ensuite pour intégrer verticalement, puis dans la logistique, puis etc., etc., enfin, en gros, à racheter ses fournisseurs, cette logique, oui, on la voit quand même beaucoup moins, mais pour plusieurs raisons. C'est que, enfin, la raison principale, c'est quand vous voulez lever des fonds pour aller financer une entreprise qui fait tout, et on est bien placé pour le savoir, vous ne trouvez pas de fonds. Enfin, ça n'intéresse personne, pas un investisseur européen ou américain qui va s'intéresser à une entreprise au Mali qui fait tout. Ils vont s'intéresser à une entreprise qui fait de l'hôtellerie parce que le business model est facile à comprendre. Enfin, ils vont le cerner, ils vont fixer des KPI, enfin, des indicateurs de performance, etc. Une entreprise qui fait tout, bon.
C'est-à-dire que l'investisseur a peur qu'une activité finance une autre, qui est un espèce de, comme ça, des vases communicants entre les activités?
Oui, il y a de ça. Et puis, il y a aussi le fait que c'est quand même difficile d'être spécialiste de plusieurs secteurs et d'être dans différents secteurs. Donc, vous pouvez apporter une expertise technique sur un sujet particulier, mais pas sur tout. Donc, oui, il y a le sujet de transparence de l'information et il y a un sujet un peu plus général d'apport technique.
Julien Lefileur, vous êtes le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique après une longue carrière au sein de l'Agence française de développement.
Ben oui, longue,
jeune, 15 ans. Oui, mais vous êtes jeune, mais vous avez commencé jeune. Donc après une longue carrière au sein de l'Agence française de développement, surtout dans sa branche financement du secteur privé Proparco, vous avez créé votre propre institution, votre boutique, comme on dit dans la terminologie, dans le jargon de votre métier. Et Julien Clémenceau de Jeune Afrique vous pose une nouvelle question sur Proparco et votre départ.
À Proparco, vous financiez le secteur privé, vous avez étudié donc les différents business plans de ces entreprises dans lesquelles il fallait investir. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à aller faire un peu la même chose, mais cette fois-ci pour votre propre compte? C'était quoi? C'était le fait d'être patron? Où il y a une différence d'approche entre ce que vous faisiez chez Proparco et ce que vous faites désormais?
Non, c'est le métier vraiment plus que le fait d'être patron. C'est toujours agréable, effectivement, d'être entrepreneur, mais c'est vraiment le métier. En fait, le métier, au début, j'avais même plus ou moins essayé de le faire chez Proparco, de le proposer à Proparco. Bon, après, c'était pas la vocation de Proparco.
Expliquez-nous votre métier, alors, votre nouveau métier.
Le métier, donc, finalement, c'est un peu... Donc, on appelle boutique financière... Boutique, c'est un peu une petite banque d'affaires, mais comme on est trop petit serait présomptueux de s'appeler banque d'affaires. On va attendre quelques années. Mais en gros, qu'est-ce qu'on fait? Un entrepreneur malien, puisqu'on est sur la thématique Mali, vient nous voir et nous dit, voilà, j'ai besoin de 15 millions d'euros de capital, donc soit en dette, soit en fonds propres, et j'aimerais trouver tel type d'investisseur pour me financer.
Alors, on va faire un peu de technique financière, là. Quand un patron malien vient vous voir en vous disant « j'ai besoin de 15 millions d'euros, soit en dette, soit en fonds propres », ça veut dire quoi, soit en dette, soit en fonds propres, pour vous et pour lui?
Pour nous, quoi.
Ouais.
Donc, en fonds propres, ça veut dire que lui est propriétaire, on va dire, à 100% de son entreprise, Et s'ils décident de faire venir quelqu'un à hauteur de 15 millions peut-être, il va vendre 30% de son capital et ça veut dire qu'il va se retrouver coactionnaire avec cet investisseur. Donc l'investisseur va avoir droit de regard sur tout, sur la gouvernance, enfin va participer à la gouvernance, etc. Donc ils vont être co-détenteurs de l'entreprise. Donc là, c'est quand vous levez de l'equity ou des fonds propres. Par contre, quand vous levez de la dette, vous avez en face de vous une banque ou une DFI qui va vous prêter de l'argent et que vous allez rembourser dans les 5-10 années à venir et vous n'avez pas partagé votre entreprise. Vous avez simplement une dette envers votre créancier.
Donc, quand vous levez ces 15 millions d'euros, c'est là que vous vous rémunérez. Comment est-ce que vous vous rémunérez ?
Nous, sur notre vous, activité...
Vous, Alexis Finance.
Oui. comment on se rémunère ? Attention, on négocie différents contrats avec différentes personnes, donc ce n'est pas toujours la même chose. Mais non, mais en
mais
gros...
Mais ce n'est pas un pourcentage ou est-ce que c'est un pourcentage ?
Oui, c'est ça. En fait, on généralement, nous, on est un peu rémunérés au début pour couvrir nos coûts fixes. Et ensuite, on est rémunérés au succès de la transaction. C'est-à-dire que si on a levé...
15 millions d'euros,
15 parce millions que c'est la ou 100, même 100. Si 100 arrive moins souvent, mais 15 millions d'euros, on va toucher un certain pourcentage, effectivement, de ces 15
millions
d'euros.
C'est-à-dire c'est de l'ordre de 1% ou c'est de l'ordre de... Là, ça c'est le secret de l'affaire.
Ça dépend de beaucoup de choses.
Non, mais c'est... Quel ordre...
Non, c'est difficile à dire. Enfin, c'est difficile à détailler.
Mais c'est pas 10%, c'est moins ou...
C'est moins de 50%, si c'est la question.
D'accord, c'est moins que 50%. Bien, Julien Clémenceau.
Est-ce que vous avez l'impression que cette nouvelle génération d'entrepreneurs africains, elle est à la fois ouverte pour céder une partie de son capital et accueillir avec elle donc des fonds d'investissement qui vont avoir un droit de regard sur la gouvernance, donc à qui il faudra rendre des comptes et partager avec ces gens-là la stratégie et la vision du développement de l'entreprise. Et est-ce que voilà, ça les inquiète pas d'être dans ce modèle où on partage la gouvernance?
Non, mais c'est une très bonne question et je pense que ça rejoint, c'est dans la continuité de la question précédente, je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence entre la génération qu'on observe maintenant et la génération précédente. Génération précédente, la réponse est oui, ça les inquiétait, etc., c'était difficile, comprenez pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart de ces entreprises avaient un recours trop illimité ou trop facile, on va dire, à l'endettement, et du coup se retrouver à endetter beaucoup leur groupe parce qu'ils ne voulaient pas partager justement la gouvernance, qui a créé des situations d'entreprises trop endettées, et ce qui peut créer évidemment des faillites. Et la génération suivante me semble, et c'est des avis personnels, mais me semble beaucoup plus ouverte justement à faire venir des investisseurs internationaux. Tout simplement, souvent ils sont formés eux-mêmes dans des écoles internationales, donc ils n'ont pas de peur ni de complexe particulier à dealer avec un investisseur international. Donc, ils n'ont pas peur de perdre le contrôle de leur entreprise parce que quelqu'un a 30% de leur capital.
Alors, vous disiez tout à l'heure, Julien Le Fileur, que les banques françaises se retiraient d'Afrique, en réponse à une question de Julien Clémenceau, qui l'affirmait d'ailleurs. Est-ce que ça joue un rôle dans cet éloignement d'une certaine partie de l'Afrique, en tout cas de la France d'un côté, et de l'autre de cette monnaie panafricaine qu'est le franc CFA. Certains chefs d'État du MOA parlent de plus en plus ouvertement d'une réforme de cette monnaie qui est demandée par certains secteurs de la société civile, par certains économistes. Mais le président ivoirien Alassane Ouattara, qui était cette semaine sur les antennes de RFI, se dit toujours très attaché au CFA dans sa forme actuelle. On l'écoute.
Le fait que nous sommes arrivés à l'euro, si nous empruntons des euros, le moment de les rembourser dans 5 ou 10 ans, le taux est fixe, mais il n'y a pas de problème. Donc c'est même, le même taux auquel nous remboursons. Mais si nous avions une monnaie, les gens parlent de monnaie flexible et tout ça, c'est très bien pour certains pays. Mais nous avons une parité fixe. Moi, je suis désolé de le dire, je suis ancien gouverneur de la Banque centrale, peut-être que je ne suis pas objectif. Si les pays de l'UMOA n'ont pas tellement de problèmes de dette, c'est grâce à cette parité fixe. Nous avons les taux de croissance les plus élevés dans l'UMOA, plus 6,6%, le taux d'inflation le plus bas. La dette publique la plus basse, 50% de dette pour l'ensemble de l'UMOA, et ainsi de suite. Nous respectons tous les critères de convergence, aussi bien au plan régional qu'au plan international. Mais cette zone va bien.
Alassane Ouattara sur RFI, Julien Le Fileur, vous êtes d'accord avec lui?
Moi, je vais essayer de voir de mon point de vue plus de financer le secteur privé, évident hein, que le CFA offre quand même pas mal de visibilité aux investisseurs. Donc, naturellement, c'est difficile de dire que ça a un impact négatif sur les investissements. Alors après, effectivement, on peut avoir des doutes en se disant, d'accord, mais si ça se dévalue, on ne le verra pas venir. Alors que le CDI, finalement, on peut... plus ou moins l'anticiper. Alors que le CFA, si ça arrive, ça arrivera du jour au lendemain. Mais si ça n'arrive pas, il est évident que ça offre beaucoup plus de visibilité. Puis, comme le disait le président Ouattara, les taux sont relativement bas. Quand vous regardez les taux ghanéens, récemment, je parlais avec un investisseur et donc on parlait du taux de financement d'une banque qui était de 22%. Et naturellement, il m'a dit « Ah oui, ça va, c'est assez bas ». C'est quand même assez étonnant qu'on puisse dire, dans un contexte quel qu'il soit, que 22% c'est bas. Moi, je trouve que mais ça reste
malgré
très
ça,
élevé.
L'économie ghanéenne se porte plutôt bien.
Oui. Bon, enfin, il y a de l'inflation, etc. Mais oui, là, ça se porte plutôt bien, c'est relativement dynamique. Après, c'est vrai qu'on parle souvent du CFA. Moi, je pense que ce qui est aussi un tout petit peu lié à ces sujets de CFA et qui est aussi très inquiétant pour les investisseurs et dont on parle beaucoup moins, c'est tous les contrôles de transfert de devises. Et ça, c'est vraiment un sujet d'investisseurs privés. Pour le coup, on commence justement à le voir en zone CFA. On l'a vu beaucoup au Nigeria, quand il y a eu des problèmes.
Précisez-nous ce que vous appelez les contrôles de transfert.
Transfert de devises, c'est-à-dire que vous pouvez, il n'y a pas un libre flux d'échanges. C'est-à-dire que vous avez du mal à rapatrier des dividendes, par exemple, voire même rembourser votre dette en euros. Si vous êtes un emprunteur en Éthiopie, par exemple, pour rembourser votre dette en euros, c'est compliqué. Vous n'avez pas accès à de l'euro, il n'y a pas de change.
L'Éthiopie, c'est hors zone CFA. Hein.
Ils en sont sortis. Non, je plaisante. Tu parlais du contrôle de devises de manière générale, qui me semble être un sujet assez prégnant, en fait, qui me semble être... sur le sujet du CFA, moi, je pense que pour un investisseur, ça offre de la visibilité.
Mais les États sont bien obligés de conserver... des devises pour pouvoir gérer aussi tout un tas d'importations, puisque les économies africaines sont peu industrialisées, elles commercent peu entre elles, et donc elles dépendent beaucoup pour les matières premières, pour un certain nombre de matières agricoles, de produits alimentaires, des importations. Et donc elles ont nécessité à garder des devises.
Oui, c'est vrai, mais enfin, c'est un cercle aussi un petit peu vicieux. C'est-à-dire que si vous commencez à garder les devises, vous n'en faites plus rentrer, tout simplement. C'est-à-dire qu'un investisseur, s'il sait qu'il ne va pas pouvoir faire sortir ses devises, il va arrêter de les faire rentrer. Et donc forcément, l'État en face va se dire qu'ils vont encore plus contrôler les sorties de devises parce qu'ils en ont moins à l'entrée. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Et quand c'est arrivé en Éthiopie, en Angola, en Afrique du Nord, ils ont des pires problèmes pour sortir les devises également. Mais c'est souvent, hormis peut-être l'Afrique du Nord, mais au Nigeria, en Éthiopie, en Angola, dans des situations de crise. Et voilà. Mais du coup, ça renforce d'une certaine manière la crise parce que les investisseurs ne viennent plus, donc vous n'avez plus d'euros dans le pays, donc c'est difficile de...
La solution la plus évidente semble être de développer un marché, une zone de libre-échange continentale pour que les pays puissent se spécialiser, s'industrialiser suivant des pôles de compétences et commercer en ces économies puissent commercer entre elles et moins dépendre d'importations hors du continent. Est-ce que vous croyez, par exemple, à la mise en place plus ou moins rapide, 3 à 5 ans, de la ZLECA, la zone de libre-échange économique africaine, sur laquelle travaille l'Union africaine, notamment depuis quelques années, et puis il y a eu le sommet de Niamey au mois de juillet.
J'avoue que je ne suis pas ça de très très près. Ce que je note aussi, c'est qu'il y a la même chose qui est en train de se faire en Afrique de l'Est, et qui a l'air de bien avancer, enfin, une intégration régionale, une zone de libre-échange régionale. C'est le cas déjà en Afrique australe. Celle d'Afrique de l'Ouest, l'UMOA fonctionne quand même, on ne va pas dire très très bien, mais vraiment bien.
Si vous y intéressez pas, ça veut dire que les chefs d'entreprise que vous rencontrez n'y croient pas encore, ne s'y intéressent pas beaucoup, préfèrent miser plus sur les zones régionales dont vous parlez.
Vous avez quand même pas beaucoup d'entreprises panafricaines en Afrique, hein. Donc des gens qui ont suffisamment de surface industrielle ou financière pour s'intéresser à l'Afrique dans sa globalité. En Afrique, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez des groupes régionaux en Afrique de l'Ouest qui intéressent Mossadegh Bali, c'est la zone UMOA, parce qu'il a la taille pour être présent dans tous les pays de la zone UMOA, mais pas encore dans tous les pays d'Afrique. Donc je ne pense pas que ce soit des sujets complètement immédiat pour des entrepreneurs africains. Ça l'est davantage pour des entreprises internationales, pour Total, pour Olam, pour... Voilà, eux, ils peuvent avoir ce type de sujet à gérer, mais honnêtement, on n'a pas encore beaucoup de groupes panafricains.
Alors qu'on l'a vu, il y a toujours ce débat sur le franc CFA. Dans certains pays qui formaient auparavant l'empire colonial français, on assiste à une montée de ce qu'on pourrait appeler une francophobie, cette fois-ci. Alors, c'est lié toujours à l'influence supposée de Paris sur les décisions intérieures. Dans certains cas et dans certains pays, notamment au Sahel, ça peut être lié aux agissements ou à la manière dont se comporte l'armée française qui est en intervention depuis plusieurs années avec Barkhane. Est-ce que vous ressentez cette forme de défiance par rapport aux interlocuteurs français, aux intérêts français? Est-ce qu'on le sent dans le milieu des affaires ou est-ce que c'est plutôt les populations et ça peut être plus du côté des populations que des gens qui ont des entreprises, qui possèdent des entreprises?
Personnellement, dans le milieu des affaires, non, je ne le sens pas du tout. Je ne sens pas du tout de défiance. Quand vous avez, encore une fois, quand vous venez chercher du capital et que vous avez besoin de capital pour financer votre entreprise, vous pouvez faire un peu de philosophie, etc. Mais vous allez surtout regarder si les conditions offertes sont intéressantes et si vos partenaires en face sont des gens fiables. Donc vous n'allez pas rentrer dans des considérations trop générales, je pense. Ensuite, en plus, le deuxième sujet, je pense, c'est qu'il y a quand même moins d'entreprises françaises. Enfin, on a parlé du groupe BNP tout à l'heure. Il y a quand même moins d'entreprises françaises et il y a plutôt un retrait des entreprises françaises en Afrique. Alors, les entreprises qui étaient présentes sont présentes, restent présentes et renforcent leur présence, type Bolloré, groupe Accor, enfin, toutes les entreprises qu'on connaît, le groupe Total aussi. Mais de manière générale, on voit quand même pas beaucoup d'entreprises. On voit des capitaux français investir en Afrique. Avec les fonds d'investissement qu'on connaît tous, du type Amétis ou la BPI ou Proparco
ou Vindel.
Ou Vindel, en effet. Adenia, qui est aussi en partie français. Mais par contre, vous voyez de moins en moins d'entreprises françaises. Je ne sais pas en pourcentage de...
Vous voulez dire que les efforts du gouvernement français depuis plusieurs années, du MEDEF, pour faire revenir l'industrie, les entreprises françaises en Afrique, ces efforts sont des échecs?
Ce ne sont pas des succès. Est-ce que... Moi, encore une fois, je trouve que les entreprises qui sont présentes et qui étaient renforcent leur présence, mais je ne vois pas beaucoup, beaucoup de nouvelles entreprises. Il y en a, hein. Il y en a évidemment qu'on pourrait citer, mais il n'y a pas beaucoup de nouvelles entreprises, non. En revanche, et c'est peut-être un phénomène nouveau, il y a beaucoup plus de capital qui vient de France en Afrique. Il y en a beaucoup plus. Il y a 15 ans, tous les fonds que je viens de citer, ils n'existaient pas et Proparco était 5 fois plus petit. Donc, il y a 10 fois plus de capital français qu'il y a 10 ans en Afrique.
Donc la présence économique française en Afrique change de nature, c'est ce que vous nous dites.
C'est ça. C'est plus je pense, par l'investissement financier que par l'investissement d'entreprises en direct.
Et pour l'Afrique, c'est une bonne chose?
Oui et non. Oui, c'est toujours bien d'avoir plus de capital. Après, il y a une compétences techniques et un transfert technique qui est toujours intéressant d'avoir. Et je pense que le commerce, de manière générale, se fait par les entreprises plus que par le secteur financier. Donc, oui et non.
Julien Le Fileur, merci. Cette émission est maintenant terminée. Merci d'avoir accepté l'invitation de RFI et Jeune Afrique. Vous pouvez retrouver ce programme sur les réseaux sociaux ou sur les sites internet www.rfi.fr ou www.jeuneafrique.com. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI.